Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mocha Politique. Aujourd'hui, on va traverser les Alpes pour regarder un petit peu ce qui se passe en Italie. Mais pas seulement. On va parler de culture, des médias, évidemment, de la démocratie, de son état de santé, et surtout de la manière dont un pays raconte son identité et ce qu'il choisit de taire. Parce qu'avant de parler de l'Italie, il y a un chiffre qui doit nous arrêter. Il est glaçant. Et il dit quelque chose de notre monde. Selon Reporters sans frontières, 67 journalistes ont été tués dans le monde cette année. Un chiffre en hausse, un chiffre qui ne devrait pas exister. Et surtout, et je pense que ça, c'est ce qu'il faut noter et ce qui est fondamental. Près de la moitié ont été tués à Gaza, dans un contexte où l'information, où le fait même de pouvoir informer, devient littéralement l'acte le plus risqué, parfois mortel, pour les journalistes gazaouis qui sont sur place, puisque les journalistes étrangers sont toujours interdits d'accès par l'État israélien. RSF le dit, les journalistes ne meurent pas, ils sont délibérément tués. Et ce rappel en 2025, avant de rentrer en 2026, dans quelques semaines, n'est pas seulement une statistique de plus, un chiffre de plus qu'on doit absolument ajouter à notre calendrier pour finir comme il se doit l'année. C'est la démonstration que la liberté d'informer est de plus en plus menacée. Et ça, c'est une réalité à prendre en compte. Alors pourquoi je commence par là, on pourrait se le demander, dans une chronique sur la culture, sur la politique italienne? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe en Italie, et on va parler notamment de la crise pour les journaux les plus importants, notamment La Repubblica et La Stampa, et les tensions qu'on peut avoir dans un salon du livre, et les débats qui sont très présents autour de l'identité culturelle et de l'inscription de la cuisine italienne comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Quand on recoupe toutes ces questions, on peut voir que tout cela tourne autour d'un même sujet. Qui produit l'information, la culture, qui raconte ce qui se déroule dans un pays, qui décide et de quelle manière on va décider d'orienter notre sujet. C'est véritablement un thème qui nous concerne toutes et tous en France et on peut être confronté à cette situation. Et c'est précisément ce que je vous propose d'explorer ensemble. On va commencer tout d'abord par la tempête médiatique autour, on l'a dit, de La Repubblica et de La Stampa. On commence avec l'actualité la plus brûlante. En Italie, les deux journaux historiques sont sur le point d'être vendus. Et on pourrait penser que c'est une tractation assez banale et que voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt à regarder beaucoup plus par rapport à ce sujet. Mais ces deux quotidiens, ils appartiennent actuellement au groupe qui s'appelle GEDI. Qui est contrôlé par la famille Agnelli. La même famille qui est derrière, si vous voulez, Fiat, la Juventus, etc. Cette famille, c'est l'un des piliers historiques, on pourrait dire, du capitalisme italien. Et voilà que les Agnelli s'apprêtent à se retirer des médias. C'est une première depuis les années, je crois, 1950. Ce qu'il faut retenir, et ce qui est fondamental, c'est qu'il y a un possible rachat par un groupe grec et un groupe qui n'est plus implanté directement sur le territoire italien. Ce qui pose des questions, ce qui suscite des inquiétudes grandissantes par rapport aux rédactions et les journaux ont décidé de ne pas publier hier. Hier, donc quand j'enregistre l'émission, c'est le jeudi 11 décembre. Et nous avons pendant ce temps-là un gouvernement italien qui regarde avec un intérêt, disons, pas totalement désintéressé. Pourquoi ? Parce que La Repubblica est historiquement un journal progressiste, plutôt de gauche. Souvent critique du gouvernement Meloni, de ses politiques, en matière justement du domaine du social, de l'économie. Et il y a une critique qui est assez constante vis-à-vis de ce qu'elle met en œuvre avec les membres de son gouvernement. Et sa vente pourrait donc changer l'équilibre du paysage médiatique italien. Et c'est ça qui suscite justement beaucoup de débats, d'interrogations et d'inquiétudes pour les journalistes, et pas que pour les journalistes. Et ce qui préoccupe les journalistes par rapport à cette question, c'est moins le rachat en soi que cette forme d'incertitude palpable. Parce que c'est fondamental de s'interroger sur qui contrôlera, par exemple, la future ligne éditoriale. C'est un sujet qui est fondamental, qui nous concerne toutes et tous, ici en France et en Italie. Quel rôle auront les actionnaires étrangers ? On pense à ce groupe grec qui pourrait justement racheter les deux journaux. Et surtout, le pluralisme sera-t-il assuré ? Y aura-t-il encore cette possibilité de faire émerger des voix discordantes, dissonantes ? Dans un pays où Berlusconi, on le sait, on en a déjà parlé dans une émission précédente de Moquet Politique, a longtemps montré que la politique pouvait littéralement posséder les médias. Il a le télépopulisme, c'est littéralement et fondamentalement une invention de Silvio Berlusconi de jouer justement sur le pouvoir de, en tant qu'entrepreneur, lui à la base, en tant qu'un homme qui s'est véritablement créé cette image et cette personnalisation un petit peu à travers la télévision. Et ce qui a été beaucoup mis en avant et ce qui lui a permis d'avoir cette caisse de résonance et pour arriver à des postes et à des fonctions éminemment importantes. Et ça montre aussi que la politique, ça peut, on l'a dit, posséder les médias. Et cette question, elle est bien évidemment jamais neutre. Il y a des intérêts qui s'y jouent, nécessairement. Et vous allez voir justement que ce n'est pas la seule bataille culturelle en cours en Italie que j'ai pu justement un petit peu trouver en préparant cette émission de Moquet Politique. On va aller directement à Rome, direction Rome maintenant, où la grande foire du livre indépendante, più liberi, plus de livres, si on traduit c'est plus de livres qui sont plus libres, est secouée par une polémique dernièrement. J'ai vu un article dans Le Monde qui date du 6 décembre, donc ça fait une petite semaine. Et donc on a cette polémique-là du Salon du Livre. Pourquoi ? Parce qu'un éditeur, il a été accusé de diffuser des textes néofascistes et antisémites. Il a eu un stand, en fait, dans le salon, dans ce salon de cette grande foire du livre indépendante. Et son catalogue met en avant notamment des récits glorifiants, des figures extrémistes, parfois liées au Waffen-SS. Et la réaction des auteurs a été immédiate. Une lettre ouverte a été signée par plus d'une cinquantaine d'écrivains. Il y a eu plusieurs annulations de participation, des personnes qui ont décidé de ne plus s'y rendre et de ne plus y participer au vu de cette situation. Et des débats enflammés ont eu lieu sur la liberté d'expression et la mémoire antifasciste, et ce qu'il en reste en Italie. L'association des éditeurs italiens a rétorqué que tant qu'une maison d'édition respecte la Constitution, elle peut exposer, mais je trouve que cela a ses limites. Mais on peut dire aussi que la Constitution italienne est justement explicitement antifasciste, d'où un petit peu le malaise ambiant qui peut se ressentir. Et ce débat, ce n'est pas seulement un débat purement littéraire, voilà, qu'on pourrait cantonner à cette sphère du domaine des livres. C'est un débat sur la place des idées extrêmes dans l'espace public, sur la normalisation. On parle beaucoup, et on en a parlé justement dans mon autre émission, l'Expresso de la politique, sur la normalisation, la banalisation constante, permanente dans les débats politiques et les débats publics de la place de l'extrême droite, de la place qu'elle occupe actuellement sur l'échiquier politique, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et dans les débats qui sont courants, et de ce qui est jugé acceptable dans une démocratie, ce qui est toléré et ce qu'on peut souhaiter ou non. Sur l'héritage encore brûlant du fascisme, quand on retourne en Italie, et ça montre une chose fondamentale, que la bataille culturelle en Italie, elle est plus vive que jamais. Et donc nos deux premières actualités que j'ai pu relever pour vous en préparant cette émission, à la fois cette polémique du Salon du Livre più liberi et cette tempête médiatique qu'on a autour à la fois de ces deux journaux historiques et qui ont fondé véritablement la culture italienne, la Repubblica et la Stampa, ça montre cette bataille culturelle qui est très présente. Et pour rester dans ce domaine, on va voir quand la culture fédère, quand la culture a cette possibilité de pouvoir fédérer avec, on l'a dit un petit peu dans le propos liminaire en introduction, la cuisine italienne qui a été reconnue par l'UNESCO. C'est tombé jeudi 11 décembre. Heureusement, tout n'est pas conflit. Fort heureusement, il y a aussi des moments d'unité. Et le plus beau de ces derniers jours, si on peut regarder un petit peu, c'est sans doute la reconnaissance officielle de la cuisine italienne comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Tout ça par l'UNESCO. On parle ici non pas d'un plat, on pourrait penser que c'est un plat qu'on récompense par exemple, je ne sais pas, les spaghettis, bien évidemment le tiramisu, les pizzas, etc. Mais c'est une culture culinaire entière. Et c'est surtout les savoir-faire, les gestes qui vont être transmis en famille, la variété régionale, en s'intéressant toujours bien évidemment à cette cuisine, l'importance sociale du repas, les moments de convivialité que l'on peut passer, et l'art de valoriser des produits simples, des produits du terroir, des produits quotidiens. La manière justement de manger, de cuisiner, d'être à table, c'est ça qui est fondamental. Et de pouvoir transmettre et partager ses savoir-faire à la génération futur. C'est un sujet que l'Italie poursuit depuis des années et qui est enfin abouti, d'avoir cette reconnaissance. Alors, pourquoi on pourrait se dire que c'est important politiquement et pourquoi on en parle dans Mocha Politique, qui est une émission qui décrypte les différents enjeux politiques, parce que tout ne tourne pas autour des élections, des moments que l'on pourrait penser comme intrinsèquement politiques, mais c'est aussi comme ce sujet de la reconnaissance de la cuisine italienne comme directement patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, c'est important politiquement parce que la cuisine italienne, c'est un consensus national. Ça permet de fédérer et c'est un marqueur identitaire extrêmement fort qui est partagé par beaucoup, à la fois à gauche, à droite, au nord et au sud. Et dans un pays qui est traversé par des tensions, ça devient un objet de récit collectif. Ça permet de structurer un récit collectif. Et Giorgia Meloni s'est emparée directement, bien évidemment, de cette nouvelle. Et elle a fait un discours à côté du Colisée, où il y avait le drapeau italien qui était projeté sur le monument historique. C'est une manière aussi de dire, voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous voulons, on l'a dit, transmettre. L'héritage. C'est intéressant, bien sûr, de voir qu'au moment même où le pays se déchire, on l'a dit, sur cette polémique par rapport aux livres, par rapport aux valeurs que l'on peut défendre, par rapport à la place de notre héritage par rapport au fascisme, on l'a dit, ou par rapport aux médias qui peuvent avoir des pressions sur leur ligne éditoriale future, par rapport à ce possible rachat par une société grecque, on peut se rassembler autour d'un sujet qui est ce sujet précis de la cuisine. La culture, c'est aussi ça, un espace où la politique se calme et où l'on peut un petit peu respirer. Et la France, dans tout ça. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de ces débats italiens font écho à des débats français. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. En France aussi, on se demande, et on l'a déjà fait dans une émission, et je vous renvoie à cette émission de l'Expresso de la politique sur la sphère Bolloré, sur la mainmise sur le service public, sur l'audiovisuel public de la sphère Bolloré comme une forme de tentacule gigantesque qui se déploie à la vitesse de la lumière. Et qui contrôle donc les médias? C'est une question essentielle. Comment défendre le pluralisme et comment continuer cette défense du pluralisme? Que faire à la fois de l'extrême droite dans les espaces culturels, comme dans ce salon du livre? Est-ce que l'on peut tolérer, au nom de la prétendue volonté de pouvoir laisser tous les courants de pensée s'exprimer? Est-ce qu'on peut laisser l'extrême droite ou des mouvements qui se prétendent de manière complètement délibérée, complètement débridé par rapport à des sujets sur le thème notamment du fascisme, de mettre en évidence la gloire d'un passé semblable? Est-ce qu'on peut laisser et tolérer cela se développer dans les espaces culturels? Il y a aussi la question de comment protéger les journalistes en zone de guerre. On l'a dit dans mon propos liminaire par rapport à ce dernier rapport de RSF, de Reporters sans frontières, 67 journalistes qui ont été tués et plus de la moitié à Gaza. Et comment préserver une identité culturelle sans la figer? Parce que bien évidemment, une identité culturelle, on peut avoir tendance à vouloir la figer et qu'elle n'évolue pas, qu'elle reste à un point très particulier et qu'il n'y ait pas cette notion de transmission, de modernisation et de transformation. Et l'Italie, elle sert en quelque sorte de miroir. On l'a souvent dit et je trouve que cette métaphore, elle est intéressante de voir l'Italie un petit peu comme un miroir et de montrer ce qui arrive quand la culture devient un terrain de bataille idéologique direct. Elle montre aussi comment une identité nationale peut s'appuyer sur un patrimoine culturel vivant. Et puis la France et l'Italie ont toujours été proches dans ce domaine. Deux pays par rapport à la gastronomie française qui a été reconnue hein, patrimoine mondial, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et donc on peut faire un rapprochement par rapport à ça. Deux pays de littérature et de sociétés qui s'interrogent à la fois sur le thème de la mémoire, de la démocratie et du pluralisme. Bref, deux pays qui se regardent beaucoup plus qu'on ne le croit et qu'on ne le laisse parfois penser. On a commencé cette chronique avec un chiffre terrible. 67 journalistes tués en un an. On la termine avec un autre regard, la culture comme espace où un pays peut se raconter. Entre les deux, il y a l'essentiel, on l'a dit. Des médias qui vacillent, des livres qui deviennent des lieux de débats politiques. La cuisine qui essaye, tant bien que mal, de pouvoir rassembler et une démocratie qui se redéfinit. La culture et l'information ne sont jamais des choses neutres. Elles sont au cœur de la vie démocratique. Elles disent ce qu'un pays pense, aime, craint. Et l'Italie, cette semaine, nous le montre avec une clarté presque pédagogique. Et je trouve que ça, c'est particulièrement intéressant pour notre émission. La question aussi fondamentale, c'est qui a le droit de raconter le monde ? Ce que l'Italie nous a montré cette semaine, c'est qu'une démocratie ne se mesure pas seulement, comme on pourrait parfois le penser, dans les urnes. Elle se mesure dans la façon dont elle protège ses journalistes au quotidien, dont elle respecte ses lecteurs, dont elle permet à ses écrivains de dire non, dont elle reconnaît la valeur d'un geste culinaire transmis de génération en génération. Elle se mesure dans la vitalité de ses débats, dans sa capacité à supporter et à autoriser et permettre le désaccord, dans son refus de céder à la tentation toujours plus importante, parfois, de la simplification. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante. La culture, ce n'est pas un décor poussiéreux. Ce n'est pas un supplément d'âme, c'est le cœur battant de notre démocratie. C'est dans les livres que se forme notre imaginaire, c'est dans les journaux que se construit notre vigilance, notre devoir de faire attention, de pouvoir nous informer et de connaître, et de mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est dans la cuisine que se transmet la mémoire, celle des familles, celle des régions, celle qui fait tenir un pays. Alors oui, on peut voir dans les polémiques italiennes, on l'a dit, des tensions, des inquiétudes, des fractures, mais on peut y voir aussi une vitalité importante. Un pays qui débat, qui proteste, qui écrit, qui cuisine et qui revendique. Un pays qui refuse d'être passif et qui continue malgré les difficultés ambiantes à se battre pour son identité culturelle et démocratique. Et peut-être que ça finalement, la véritable bonne nouvelle de la semaine, c'est cela. Malgré les crises, malgré les menaces, malgré les pressions, il y a encore des millions de personnes qui croient et qui pensent, comme moi en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire à mon humble échelle, que raconter le monde vaut la peine, qui croient que l'information est un bien commun, qui croient que la culture nous tient ensemble. L'Italie nous le rappelle avec force. Une démocratie qui débat est une démocratie vivante, et une démocratie qui valorise sa culture, et une démocratie qui espère encore. Merci d'avoir suivi cette traversée franco-italienne, comme c'est le cas toutes les deux semaines. Prenez soin de vos lectures, de vos sources, de vos journaux et de vos recettes de cuisine. Prenez soin de cette culture qui nous relie, même quand tout semble pourtant nous diviser. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Mocha Politique. Bonne journée à toutes et à tous et à très vite. Salut !